écoutez KTO Radio, il est 7h. L'invité de la matinale. KTO Radio.
Sur le chemin vers Pâques, le Triduum Pascal invite tous les chrétiens à célébrer le mystère de la foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-il construit? Quel message essentiel nous propose la liturgie de la parole? Je remercie la bibliste Marie-Noël Tabu d'être avec nous en studio ce matin, ce jeudi saint. Bonjour Marie-Noël.
Bonjour.
Les auditeurs et les auditrices vous connaissent bien et apprécient surtout vos lectures et commentaires des textes. Marie-Noël, je me demandais avant l'interview et pour débuter, quelle est la signification du terme Triduum Pascal?
Trois jours, un seul jour en trois. Comme on dit trinité pour triunité, c'est la même chose, c'est un unique jour.
Et Pascal?
Pascal, autour de la fête de Pâques, bien sûr, qui est le centre quand même de toute l'année liturgique.
Alors le Triduum Pascal, c'est donc trois jours, vous l'avez dit, au cours desquels les chrétiens sont invités à célébrer la mort et la résurrection du Christ. C'est une plongée dans le récit biblique. Comment s'articule ce temps? Commençons par le Jeudi Saint, si vous voulez bien, Marie-Noël. Jeudi Saint où les catholiques commémorent d'abord l'ultime repas du Christ, la scène.
Oui, mais il me semble. De toute façon, on va se mettre en état de contemplation pour écouter tout ça, pour le revivre. Il me semble que ces trois jours vraiment n'en font qu'un et qu'il ne faut pas l'oublier. On est illuminé dès le début, c'est des chrétiens qui célèbrent. Donc on est illuminé dès ce matin, enfin dès ce soir, l'office normalement est le jeudi soir. On est illuminé déjà par la résurrection, ça je crois que c'est très important. Mais qu'il faut s'y préparer et qu'il faudrait se mettre en état d'écoute et de contemplation, c'est tout. Savoir qu'on ne va pas tout comprendre, mais on va le vivre. Et deuxième résolution, je dirais le vivre avec toute l'Église. C'est pas un individu qui se rend à ces célébrations, c'est toute une communauté. Et ça, c'est superbe, et ça, c'est toute l'Église universelle. Alors, le Jeudi Saint, bien sûr, nous allons vivre donc tous ces événements. On a eu un peu, il me semble, le Dimanche des Rameaux, un résumé de ce paradoxe incroyable, quand même, de douleur et de gloire. Dès le Dimanche des Rameaux, ça a été ça. On a commencé dans le triomphe, on a terminé dans le dénuement, avec le récit de la Passion, le dénuement, la déchirure, la fin, effrayant. Et pas la résurrection. On l'a quand même célébré dans l'Eucharistie, heureusement, on ne l'a pas oublié. Et alors, je dis donc, au début de l'Église, il n'y avait qu'une seule célébration, et c'est peu à peu qu'on a divisé en trois. Le mot divisé, bon, on va dire étalé en trois, et donc plus particulièrement aujourd'hui, ce sera l'Eucharistie, le don incroyable de l'Eucharistie, avec des textes extraordinaire. Alors, il y a quand même un texte qui, au départ, est un peu étonnant. C'est ce chapitre de l'Exode. Je dois être honnête, moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais oh, Exode 12, vous voyez, prenez un agneau, oh là là, mal, âgé d'un an, mais c'est quoi cette histoire? Un Dieu qui demande des choses pareilles? Je me disais, mais c'est pas ma religion, ça. Ben, si. Mais ça nous remonte évidemment assez loin. Donc, ce texte d'Exode 12, ensuite le psaume magnifique. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, c'est superbe. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Donc là, on entre vraiment dans la contemplation du don. Et puis, alors le récit de l'Eucharistie chez saint Paul, on l'aurait attendu dans l'Évangile, mais c'est une belle leçon, je trouve. Chez saint Paul, à un moment de querelle dans la communauté, il faut remettre les choses en place, remettre la communauté un peu dans les rails, et en même temps, il dit le récit de l'institution, puisque c'est le quatrième récit. Vous savez, ça a toujours été mon étonnement. Il n'y a que trois évangiles qui donnent le récit de l'institution de l'Eucharistie, les trois synoptiques, et puis pas Jean. Mais on va savoir pourquoi.
Oui,
et puis Paul.
Dites-nous.
Paul dans la première aux Corinthiens. Et justement, alors ce qui est très intéressant, dans l'évangile de Jean, c'est le lavement des pieds. Ça veut dire qu'il ne raconte pas l'Eucharistie, l'institution. Il a donné tout le chapitre 6, que nous aurons cet été d'ailleurs, parce que c'est l'année des B qu'on va l'entendre. Tout le chapitre 6 de saint Jean est ce grand discours eucharistique à Capharnaüm. Mais ce soir, ce sera le lavement des pieds, une leçon suprême, quoi. Faire mémoire de lui, c'est effectivement participer à l'Eucharistie, mais c'est aussi servir nos frères. Je trouve que là, on a une leçon immense.
Et après, le jeudi saint vient vendredi, qui est traditionnellement un jour de jeûne pour les catholiques.
Oui, et aussi le samedi, d'ailleurs. On l'a un peu oublié. Normalement, le jeûne pascal, comme on l'appelle, devrait durer deux jours. Mais bon, déjà, contentons-nous peut-être de le respecter demain, ce sera déjà bien. Alors, le vendredi, bien sûr, hein, je ne vais rien vous apprendre avec ce grand récit de la Passion, la vénération de la croix, et quand même, le partage du pain eucharistique. Merci. Mais ce récit de la Passion est somptueux, magnifique chez saint Jean, mais très, très dur aussi. Moi, j'ai toujours en tête la phrase « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et il me semble que là, on est invité, pour moi, le spectacle de la croix, c'est peut-être la seule façon pour Dieu d'arriver à transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je suis toujours frappée, j'aime beaucoup Florence, la ville, et à Florence, dans le couvent de Frangelico, il y a cette étonnante visite qu'on peut faire de toutes les cellules, dans presque toutes les cellules. C'est Frangelico qui a peint des fresques, quelquefois c'est son frère Bartolomeo, enfin le frère Bartolomeo, et Frangelico systématiquement a peint des scènes de la Passion, avec l'horreur que ça représente. Et je me dis, il avait tout compris. Il n'y a que ça pour changer nos cœurs de pierre.
Et puis, le samedi saint, jour de grand silence, vous l'avez dit, qui est un peu plus méconnu par rapport au vendredi.
Oui, mais précisément parce que l'Église est en silence, avec ce terrible silence quand même. On peut s'interroger sur ce silence de Dieu. Oh, c'est terrible. Et il faut qu'on apprenne que dans ce silence se préparait la résurrection. Donc ça, c'est très important. Mais il y a quand même ce grand espace vide, volontairement laissé vide par l'Église. Et nous sommes invités à la célébration pascale seulement le soir, mais toute la journée, nous n'aurons pas l'Eucharistie, normalement.
Et parlez-nous, après, vous l'avez dit, vient Pâques et la résurrection. Parlez-nous-en un peu.
Alors là, méfiez-vous. La vigile pascale, c'est le moment absolument extraordinaire. C'est Jean 23 qui disait que le mystère pascal, et en particulier cette veillée, est comme une fontaine de village, source et sommet de toute l'année, il disait. Ça, on l'a peut-être oublié quand on n'y va pas. Et c'est la fontaine de village où chaque génération va se ressourcer. C'est fabuleux. Alors la liturgie de la vigile pascale, nous pourrions en parler des heures. Elle est magnifique. Vous connaissez l'origine? Je crois avoir trouvé l'origine des textes de la nuit pascale, parce que cette première lecture, c'est quand même beaucoup, entrecoupée de psaumes chaque fois, et ensuite viendront l'épître et l'évangile. Et les sept prières, je crois, viennent, ce qui n'est pas choquant, de la liturgie juive. Et dans la liturgie juive, alors c'est plus que dans la liturgie, c'est dans les commentaires du livre de l'Exode, de la sortie d'Égypte, le commentaire qu'on appelle le Targum, parce que c'est une traduction en araméen, est très intéressant. Il ajoute, c'est pas seulement une traduction pure, il y a des ajouts, des gloses, et voilà ce que dit le commentaire. Il s'appelle le poème des quatre nuits. Je vous le raconte parce que je crois que c'est important. La première nuit, c'est quand le Seigneur se manifesta sur le monde pour le créer. Alors ça, c'est ce qui va donner notre Genèse 1, qui sera la première lecture de la nuit pascale. La deuxième nuit, quand le Seigneur apparut à Abraham, âgé de 100 ans, et à Sarah, sa femme, âgée de 90 ans, pour ce qu'on a appelé la ligature d'Isaac. La troisième nuit, c'est quand le Seigneur apparut aux Égyptiens au milieu de la nuit. Il protégeait les premiers-nés d'Israël pour que s'accomplisse l'écriture « Mon fils premier-né, c'est Israël ». Et enfin, alors troisième nuit, vous avez eu les trois premiers textes, Genèse 1, Genèse 22, la ligature d'Isaac, Exode 12, Pâques. La quatrième nuit, dit le texte, c'est quand le monde arrivera à sa fin pour être racheté. Alors les joues de fer seront brisées et les générations perverses seront anéanties, etc. Et il annonce la venue du Messie. Et je crois donc que nous avons eu nos trois premières nuits, et les quatre autres lectures sont le développement de cette quatrième nuit. Et quand j'ai cette clé-là pour lire les textes de la nuit pascale, pour moi il s'éclaire, je comprends mieux le choix des quatre autres textes.
Pour certains catholiques qui doutent de l'authenticité du récit biblique, qui douteraient même de la résurrection, que souhaiteriez-vous leur dire ?
Qu'est-ce que je leur disais ? Qu'est-ce que je leur dirais ? D'abord, venez et voyez la joie des chrétiens. Alors, évidemment, je nous renvoie à la mission d'être joyeux. Et puis, je n'ai pas oublié la phrase de Jésus, le fameux soir du jeudi, que nous célébrons jeudi saint, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, je me dis à nous. Ceux qui ne sont pas heureux dans nos communautés, ceux qui ne sont plus heureux dans la foi, c'est peut-être à nous de compenser avec notre joie, notre vie communautaire et notre chaleur, quoi. Faisons-les entrer dans la chaleur.
Et aux chrétiens qui vivent trop mollement l'écoute de ces textes.
Alors là, je critiquerai personne.
Parce que c'est pas forcément facile.
D'abord, tout ça n'est pas très clair. Oui. Donc, à nous de nous donner, comment dire, la mission d'expliquer, de peut-être de commenter sans prendre la place de la parole. Tout le problème est là. Et sans dire notre parole, essayer seulement de faire résonner la sienne. Mais je me dis aussi que, après tout, ne culpabilisons personne. Les apôtres ont mis bien longtemps à comprendre. Ils ont quand même abandonné la nuit même. Ils venaient de vivre avec lui je ne sais combien de mois. Et je ne sais combien d'actes, de paroles, ils ont quand même eu bien du mal. Alors nous aussi, on en a. Ne nous culpabilisons pas, mais allons-y. Je me dis quelquefois, Marie-Madeleine n'avait pas tout compris. Elle a quand même été annoncée aux apôtres. Eh bien, nous, qui n'avons pas tout compris, n'attendons pas d'avoir tout compris pour aller annoncer.
Et vous, Marie-Noëlle, qui travaillez ces textes depuis des années et de nombreuses années, êtes-vous encore émerveillée? Je pense que oui, au vu de votre sourire.
De plus en plus, de plus en plus. Mais je prends aussi de plus en plus conscience que je n'ai vraiment pas tout compris. Mais bon, je lui fais confiance pour nous éclairer et puis compenser mes manques auprès des autres, auprès des auditeurs.
Plus vous les connaissez et plus vous avez l'impression de ne pas les...
C'est magnifique, bien sûr, mais c'est magnifique. Moi, je suis émerveillé à chaque fois et je vous remercie de me donner encore une fois l'obligation de m'y replonger. Quel bonheur.
Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous, Marie-Noëlle, en ce jeudi saint. Merci d'être venue en studio à cette heure assez matinale pour éclairer nos auditeurs sur le Triduum Pascal. On vous retrouve dans l'émission En Marche vers dimanche pour vos méditations et des textes du dimanche. On vous retrouvera aujourd'hui sur KTO Radio à 17h45. Le rendez-vous est donné pour les auditeurs. Et j'annonce aussi votre livre, L'intelligence des écrits. Publié aux éditions Artege. Belle journée à vous et bonne montée vers Pâques, Marie-Noëlle.
À vous aussi, merci.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
7h12, presque 13 sur KTO Radio. La matinale se poursuit avec, dans une dizaine de minutes, les Laudes depuis Notre-Dame de la Garde à Marseille. Avant ça, la parole sera donnée à l'association L'Aide à l'Église en détresse. Mais tout de suite, augmentez le volume. On fait une petite respiration musicale avec Grégory Turpin. Je m'abandonne.
J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Place maintenant à la parole aux associations sur KTO Radio. Ce matin, notre journaliste Raphaël Delapré interroge l'aide à l'Église en détresse à propos d'un pays depuis longtemps rongé par la guerre civile et notamment de plus en plus depuis ces derniers temps, ces derniers mois. Je veux bien sûr parler d'Haïti. L'AUD, l'aide à l'Église en détresse, exerce là-bas sa mission tant bien que mal afin d'apporter aux catholiques sur l'île de quoi assurer une vie pastorale et confessionnelle plutôt normale. On écoute.
La parole aux associations.
« Le chaos se propage et l'inertie politique semble se poursuivre en Haïti. Et pour en parler, nous recevons Amélie Bertholin, qui est rédactrice en chef de l'Église dans le Monde. Quelle est la situation sur place, Amélie ?
Elle est en effet terrible. Ce mois de mars semble encore pire que les autres mois. D'ailleurs, un couvre-feu et un état d'urgence ont été prononcés alors que le Premier ministre a démissionné il y a quelques jours. Le chaos est donc total. Les gangs armés ont pris possession de 80% de la capitale. Ces gangs sont en réalité presque comme une armée contre laquelle la police ne peut presque plus rien faire. Il serait plus de 300 gangs à l'heure actuelle. Ils sèment la terreur partout. Monseigneur Mésidor, que nous avons pu interroger récemment, qui est l'archevêque de Port-au-Prince et le président de la Conférence des évêques d'Haïti, nous a déclaré qu'on pouvait considérer que le pays était comme en guerre civile, ajoutant qu'il n'y avait plus vraiment d'endroit sûr dans le pays. Les kidnappings sont notamment devenus une activité courante pour gagner de l'argent et l'Église est particulièrement menacée. Rien que cette année, en janvier, 6 religieuses ont été enlevées. En février, 6 autres religieux ont été kidnappés, ainsi qu'un prêtre. Et il y a quelques jours, c'était à nouveau un autre prêtre et 3 autres religieuses qui étaient kidnappées. Les gangs veulent faire de ce pays un no man's land pour pouvoir tranquillement vaquer à leur trafic de drogue qui transite de la Colombie et du Venezuela vers l'Amérique du Nord et l'Europe.
Et dans ces conditions, j'imagine que la vie pastorale en Haïti est gravement affectée.
Oui, exactement. Les fidèles ont peur. Il faut savoir que les gangs vont jusqu'à rentrer dans les églises pour kidnapper des paroissiens. Monseigneur Mésidor, donc l'archevêque de Port-en-Prince, nous confirme que son ministère est extrêmement affecté par cette violence et ce chaos. Il ne peut pas visiter les 2/3 de son diocèse et depuis 2 ans, il n'a même pas pu se rendre dans sa cathédrale. Alors, au cœur de ce désastre, il lance un cri d'espoir. Le peuple haïtien est un peuple qui veut vivre. Il affirme également que la vie spirituelle est importante pour la population, pour l'aider à surmonter les drames qu'elle subit. L'évêque d'ailleurs s'émerveille du courage des chrétiens qui bravent tous les dangers pour vivre leur foi. Parfois, il y a des tirs de balles dans un quartier la nuit, mais le matin, les gens bravent quand même le danger pour venir à la messe. Et certaines processions ou chemins de croix peuvent réunir jusqu'à 50 000 fidèles alors que le danger est réel. Ainsi, l'Église assure un rôle majeur pour garder la flamme de l'espérance allumée et aider la population haïtienne à ne pas sombrer dans le désespoir ou la haine.
Cette Église si importante pour apporter un peu de paix dans ce chaos est pourtant matériellement très pauvre, n'est-ce pas ?
Oui, elle a peine à assurer sa survie. L'AED est donc parfaitement dans sa mission en Haïti auprès de l'Église locale pour l'aider à survivre malgré les épreuves. Ainsi, grâce à nos bienfaiteurs, nous pouvons répondre aux appels du clergé sur place et soutenir de nombreux projets. Par exemple, des aides de subsistance pour des religieuses, ou la formation pour les séminaristes, ou encore la transmission d'offrandes de messe pour les prêtres les plus pauvres, et puis aussi des programmes d'aide d'urgence pour les personnes déplacées. L'Église en Haïti nous demande aussi de prier pour eux. La semaine dernière, 10 évêques ont, dans un communiqué, appelé au jeûne et à la prière pour sauver Haïti de cette situation et les aider à vivre au jour le jour en gardant l'espérance. Prions donc pour eux, pour que le pays puisse se relever avec l'aide de personnes bienveillantes qui auront le souci non pas de leur propre richesse, mais du bien commun de ce peuple si meurtri.
Merci beaucoup Amélie Bertholin. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le Monde. Pour plus d'informations sur l'association Aide à l'Église en détresse, rendez-vous donc sur le site aed-6france.org. Très belle journée à vous.
Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous nous rejoignez en ce jeudi saint, où on peut dire bonne fête à tous les prêtres et les curés aujourd'hui. Lors de ce Triduum Pascal, la basilique Notre-Dame de la Garde ne célèbre pas l'Eucharistie. Je vous propose maintenant, en ce jeudi saint, donc de suivre dans la matinale les Laudes en direct, diffusées sur KTO TV et KTO Radio, un temps de méditation pour rentrer dans ce cycle pascal. Bon office à tous et à tous.
Seigneur, ouvre mes lèvres.
Et ma bouche publiera ta louange.
See you. psaume 79.
Va-t-il entendre encore?
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, interviens pour ton Église. Ta main l'a plantée comme une vigne. Purifie-la dans la passion de Jésus, ton Fils bien-aimé. Ne laisse pas le péché la ravager. Tiens-nous attachés par l'Eucharistie au corps de Jésus, comme les sarments au cep. Reviens à nous pour que nous revenions à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ancien Testament, numéro 10. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, tu nous sauves. Exultant de joie, nous puisons aux sources vives du salut dans les sacrements. Par eux, tu te rends proche, et ta grandeur se manifeste dans la simplicité de ces signes. Nous te confions tous les catéchumènes, qu'ils rendent grâce pour les merveilles que tu as accomplies dans leur vie, et puisent avec nous aux sources vives du salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Seigneur, nous nous Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt je me lirai ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai.
Dieu notre Père, tu n'as pas refusé ton propre Fils. Par amour pour nous, en lui, tu as ainsi déchargé nos épaules du poids de nos fautes. Ne nous livre pas nos cœurs endurcis, mais apprends-nous à n'écouter que toi. Ouvre notre bouche pour te chanter et pour nous rassasier de l'Eucharistie de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus a été abaissé un peu au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de sa passion et de sa mort, si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par la grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères », je te chanterai en pleine assemblée. Et encore, moi, je mettrai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par la crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Grâce à Dieu.